Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10. Et on va lire les quatre premiers versets. Romains, chapitre 10, les versets 1 à 4. Et voici la parole de Dieu. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et donc on continue notre série, on a vu au chapitre 9 que l'apôtre Paul exprime sa tristesse, son chagrin continuel pour ses compatriotes dans la chair qui rejettent l'évangile. Et il va même jusqu'à dire au chapitre 9, verset 3, « Je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont les... » Israélites, ils voudraient tout faire pour les voir venir à Christ. Il a ce fardeau d'annoncer, de faire connaître l'Évangile et de voir les siens, ses compatriotes, accepter l'Évangile. Et on a vu que dans le chapitre précédent, Paul a répondu à des questions que certaines personnes ont soulevées à cause de la difficulté de son enseignement à cause de son insistance sur les desseins glorieux et souverains de Dieu, que Dieu fait grâce, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et même si Paul nous amène à considérer des points difficiles, on ne doit pas perdre de vue que ces chapitres parlent aussi d'une passion pour l'Évangile et de l'évangélisation. Et c'est important de le souligner, de nous rappeler ces choses. L'évangéliste le plus passionné, ces chapitres nous le soulignent, l'évangéliste le plus passionné est aussi celui qui est convaincu de l'absolue souveraineté de Dieu dans le salut, comme Paul nous le montre. Mais Paul, vous vous rappelez, veut défendre son évangile parce qu'il veut aller à Rome avec cet évangile. Et le problème, et beaucoup de personnes ne voient pas le problème, mais le problème, c'est que, et Paul l'a souligné, la promesse de Dieu envers le peuple qu'il s'était choisi, envers Israël, cette promesse ne semblait pas s'accomplir. Et partout où l'apôtre Paul est allé, il a découvert que les Juifs rejetaient le Seigneur Jésus-Christ et que c'était les non-juifs, les païens, qui acceptaient, qui croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et on a dit la semaine dernière que si on lisait dans les Actes, les chapitres 13 à 21, on verrait qu'à chaque fois que Paul s'est présenté dans une synagogue, il a été rejeté, il a été méprisé, et il s'est tourné vers les païens pour leur annoncer l'Évangile. Et pour Paul, ce n'était pas simplement donc un problème théorique, un problème théologique que les Juifs rejetaient l'Évangile. C'était un problème bien réel auquel il était confronté. Et c'était le cas, par exemple, dans son premier voyage missionnaire, en Actes chapitre 13. Paul et Barnabas arrivent à Antioche de Pisidie. Ils se rendent à la synagogue et après la lecture, Paul est invité à donner une exhortation à l'Assemblée. Paul va expliquer l'Ancien Testament, montrer que l'Ancien Testament pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Il démontre que le Seigneur Jésus-Christ est bien celui qui a été annoncé. Il est le Messie promis. Quelle est la réponse? Acte 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Et Paul répond, Paul et Barnabas répondent, versets 46 et 47, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit dans le verset suivant que les non-juifs, les païens, se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le contraste, verset 50. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Et le chapitre se termine de cette façon. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et Paul passe à Icône. Paul et Barnabas arrivent à Icône. Qu'est-ce qu'on lit au chapitre 14, versets 1 et 2? À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Et ils quittent Icône pour aller à Lystre et à Derbe. À Lystre, Paul est lapidé. Chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Et Paul retourne à Antioche, d'où il était parti. Et pour faire ce rapport, voilà, les non-Juifs entrent dans le royaume de Dieu en grand nombre. Mais partout où nous sommes allés, seul un petit nombre de Juifs vient à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand il part pour le deuxième voyage missionnaire, Actes chapitre 17, il rencontre la même situation. Il va à Thessalonique. Quelques Juifs sont persuadés par l'Évangile, une grande multitude de païens. La majorité des Juifs étaient jaloux. Les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Paul et Silas vont à Bérée. À Bérée, les personnes, les gens sont présents, sont un peu plus sérieux. Ils vont examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et alors que beaucoup crurent, beaucoup de femmes grecques de distinction, des Juifs de Thessalonique arrivent à Bérée pour agiter la foule. Partout où Paul est allé, c'est la même chose. Il arrive à Corinthe et c'est la même chose. Quand il prêche l'Évangile, les Juifs s'opposent à lui et le rejettent. Et ce problème pour Paul, ce problème que ses compatriotes dans la chair rejettent l'Évangile, ce problème, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement un problème théorique, c'est un problème bien réel. Et c'est un problème qui a marqué même son propre corps. Son corps portait les marques de la lapidation, les marques des 39 coups de fouet qu'il a reçu à plusieurs reprises. Chaque fois que Paul enlevait ses habits, les marques qu'il voyait sur son corps lui rappelaient que ses compatriotes dans la chair rejetaient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que Paul s'est posé la question, est-ce que la promesse de Dieu, est-ce que la parole de Dieu a failli? Et il a répondu, non, Dieu accomplit ses desseins. Et ses desseins d'une manière souveraine. Et on a vu la dernière fois que, et cette réalité, Israël s'est détourné de son Messie qui avait été promis. Et toute la responsabilité du rejet de l'Évangile par Israël repose avec Israël, repose avec le peuple. Israël est responsable, est coupable de son rejet. Et quand on ressent quelque chose du poids de la promesse de l'Ancien Testament que Dieu sauvera son peuple. Quand on voit Israël qui rejette le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, quand on voit l'explication que Paul nous donne dans le chapitre précédent, quand on voit que Paul porte dans son corps toutes les marques de l'opposition, du rejet, On réalise que Paul commence ce chapitre 10 d'une façon extraordinaire, sans doute sans aucune équivalence. Cet homme qui a été battu, qui a été meurtri par ses propres compatriotes, rejeté par eux. Il commence ce chapitre en exprimant à ses amis romains son fardeau pour Israël. Et c'est le premier point, le fardeau de Paul. Frère. Juste une parenthèse ici. Parfois, on rencontre des personnes dans le monde évangélique qui ne cessent d'utiliser ce terme « frère » un peu partout, presque au début de chaque phrase, et ils pensent qu'ils sont un peu plus fidèles au Nouveau Testament quand ils parlent ainsi. Mais quand on lit l'apôtre Paul, quand on lit ses lettres, Paul n'utilise ce terme que très rarement. Et quand il le fait, c'est toujours dans une situation qui est émotionnellement très forte. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Au chapitre 9, Paul a dit qu'il ferait tout son possible pour ses compatriotes, comme on a, quand on arrive au chapitre 10, quand on sait qu'il porte dans son corps les marques de toutes les fois où il a été battu. D'ailleurs, même en Galates chapitre 6, verset 17, il dit « Je porte sur mon corps les marques, les stigmates de Jésus. » On comprend que la passion de Paul n'est pas une passion qui est normale. Elle, c'est quelque chose de surnaturel. C'est une passion qui ressemble à la passion qu'a eue le Seigneur Jésus-Christ, qui, après avoir été battu, après même été cloué sur la croix, il s'adresse au Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est une passion qui ressemble à la passion d'Étienne pour le salut des autres, en Actes chapitre 7. On a le témoignage d'Étienne qui voit les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et alors qu'il est lapidé, il s'écrie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est une passion qui est surnaturelle. C'est une grâce divine qui transforme l'apôtre Paul de telle façon qu'il se soucie des personnes qui le rejettent, des personnes qui le méprisent, des personnes qui le persécutent. Paul continue de les aimer. Et c'est ce qui fait que ces chapitres sont grandioses. Paul nous a expliqué comment Dieu accomplit ses desseins. Et maintenant, il regarde comme ses compatriotes, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il pleure de compassion pour eux. Et c'est ce qui se passe quand l'Évangile vient toucher le cœur. C'est ce qui se passe quand l'Évangile vient faire son impression sur le cœur. Il donne ce même désir de voir ceux qui nous sont proches, ceux qui nous entourent, venir à Christ, connaître le Seigneur Jésus-Christ, connaître la réconciliation avec Dieu. Paul exprime ce fardeau. Et il va continuer en nous donnant une analyse, mais une analyse qui est déchirante. Et c'est le deuxième point. L'analyse déchirante de l'apôtre Paul, verset 2. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Voyez ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'ils manquent de zèle. Non, ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est un zèle qui est sans intelligence, sans connaissance. Zèle, peut-être quelque chose de remarquable, mais le zèle sans intelligence condamne les hommes et les femmes. On le voit, par exemple, avec ceux qui se font exploser parce qu'ils croient dans quelque chose, mais ce quelque chose est faux. Et les Juifs avaient ce genre de zèle, mais leur zèle était dans l'erreur. Il dit à ses compatriotes, l'apôtre Paul s'adresse à eux, il dit, mais ne voyez-vous pas, vous êtes sur le chemin de la perdition, vous êtes dans l'erreur. Paul savait que c'était cette leur situation parce qu'il a dit au chapitre 9 qu'il voulait lui-même être anathème, séparé de Christ pour eux, pour ses parents selon la chair. compatriotes étaient remplis de zèle, mais un zèle sans intelligence. Ils ne comprenaient pas ce qu'était la véritable connaissance de l'Évangile. Et en faisant cela, ils ont commis une autre erreur. Ne connaissant pas la justice de Dieu, verset 3, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ce verset décrit pas mal d'églises protestantes, pas mal d'églises évangéliques aujourd'hui. Si on demandait à ces personnes aujourd'hui, à ces membres d'église, comment est-ce que Dieu nous accepte, la réponse que l'on entendra dans bien des milieux, ce sera « Dieu m'accepte sur la base de ce que j'ai accompli. Je suis meilleur que beaucoup d'autres et je suppose que Dieu va m'accepter sur cette base-là. » Et les Juifs réfléchissaient ainsi. Ils ont cherché à établir leur propre justice. On peut comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait un fardeau pour ses compatriotes, parce qu'il s'est vu dans ses compatriotes. Il avait fait exactement la même chose. Rappelez-vous ce qu'il écrit en Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, verset 6. Il se voyait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Oui, je ne suis peut-être pas parfait, mais Dieu ne trouvera pas de reproche à me faire. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et quand il commence à réaliser que ce vêtement n'est pas très solide, quand Dieu va pénétrer dans son aveuglement, et en particulier quand il est en face d'Étienne, quand il voit en Étienne cette grâce, cette ressemblance à Christ que Paul savait qu'il n'avait pas, il réalise la folie de suivre sa propre justice. Et ce qu'il désire maintenant, il l'écrit en Philippiens chapitre 3, c'est d'être trouvé en Christ, non pas avec sa justice qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et l'erreur que beaucoup de croyants font, ou beaucoup de personnes, devrais-je dire, font, lorsque Dieu commence à œuvrer dans leur cœur, qu'ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas dignes d'entrer dans la présence, l'erreur que font ces personnes, c'est de décider de se rendre plus dignes pour entrer dans la présence de Dieu. Et ces personnes poursuivent cette dignité avec plus de zèle, mais aussi avec plus d'ignorance. Paul a découvert que cette justice était fragile devant Dieu, qu'il avait besoin de la justice de quelqu'un d'autre, d'une justice parfaite, pour lui permettre de se tenir dans la présence de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ se tient dans la présence de Dieu. Et le seul endroit où il pouvait trouver cette justice, c'était de venir à Christ, de lui confesser qu'il était pécheur, de trouver en Jésus-Christ une justice parfaite qui allait le couvrir de manière parfaite devant Dieu. Et Paul nous dit que ses compatriotes, au lieu de faire cela, ils cherchaient à établir leur propre justice. Mais notez le verset qu'il utilise à la fin dans la dernière partie du verset 3. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas cherché la justice qui vient de Dieu. Mais il dit qu'ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est bien là le problème. Le message de l'injustice de Dieu vient par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est le message qui déconstruit mon autosuffisance, qui me dit que je n'ai absolument rien à apporter pour mon salut. C'est aussi le message de la grâce gratuite de Dieu qui sauve parfaitement en Jésus-Christ. Et ce message est un message qui endurcit beaucoup de cœurs. C'est intéressant que nous avons lu cette parabole que Jésus raconte au sujet du semeur et des différents terrains, parce que Jésus fait allusion à cela. Le semeur jette sa semence sur les différents terrains. Le terrain qui est le plus dur, c'est le chemin. La raison pour laquelle le chemin est dur, c'est parce que c'est sur le chemin que le semeur marche le plus souvent. C'est sur le chemin que le semeur marche. Et on peut ressentir cela quand on annonce l'Évangile. On a l'impression que les paroles que l'on prononce rebondissent, reviennent à nous, tellement les personnes en face de nous sont dures, sont fermées. Et c'est ce que Paul a connu. Ses compatriotes ne voulaient pas se soumettre à la justice de Dieu qui se révèle en Christ. Pourquoi ? Parce que cela voulait dire que tout ce qu'ils avaient construit allait s'effondrer. Tout leur système allait s'effondrer. Et c'est la même chose pour l'homme aujourd'hui. Il ne veut pas venir à Christ. Alors que c'est exactement comme cela qu'il faut venir à Christ. Comme l'expriment plusieurs cantiques, 238 par exemple. « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Qu'un cœur fatigué de souffrir, qui sans toi ne peut guérir, je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. » 241, troisième strophe. « Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. » Je viens à toi sans ressources, souillé, je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur ou je meurs. 243, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est de cette façon que l'on vient à Christ. Mais la dernière chose que les pécheurs sont prêts à céder, c'est leur propre justice. C'est leur propre justice. Mais nous sommes sans force. Nous sommes sans espoir en nous-mêmes en ce qui concerne le salut. Quelqu'un a dit, la seule contribution que nous apportons à notre salut, c'est notre péché qui rend ce salut nécessaire. Paul a ce grand fardeau pour ses compatriotes. Il donne une analyse déchirante. Et puis il dit au verset 4, « Laissez-moi vous répéter le message de l'Évangile. » Et c'est le troisième point, le message de Paul, l'Évangile. Verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Beaucoup de personnes considèrent que ce passage est sans doute l'un des plus difficiles dans cette lettre aux Romains, pour la raison suivante. Ce passage soulève une question. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient » Ce n'est pas une question qui se limite au texte original grec, mais même dans notre traduction. Il parle de fin. On peut le voir de deux manières. C'est ce qu'on voit quand un film se termine. On voit le mot « fin ». Cela veut dire qu'on peut récupérer notre pot de pop-corn et quitter la salle de cinéma. C'est terminé, c'est fini. Mais la fin, c'est aussi le but vers lequel je cours. On a ce petit mot en français « afin » qui décrit un but que l'on veut atteindre. Et Paul peut utiliser ce mot dans les deux sens. Ici, l'accent est plutôt mis sur le fait que quand une personne vient à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a la réalisation que c'est la fin pour eux de penser à la loi, aux œuvres, pour obtenir la justice. Et on peut dire cela parce que quand on regarde les différents passages où Paul utilise ce terme qui est traduit par « fin », le plus souvent c'est dans le sens de « terminer ». La chose est faite. Et c'est un peu plus un peu moins souvent qu'il l'utilise dans l'autre sens pour dire que c'est un but à atteindre. Et ce que Paul dit ici, donc, c'est que quand on vient à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul lui-même est venu à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, on réalise que c'est la fin de la recherche de la justice devant Dieu par nos efforts, en essayant de faire des choses. Au lieu de cela, nous venons à Christ les mains vides pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, comme les cantiques que nous avons cités nous le rappellent. Et c'est sans aucun doute le plus grand soulagement dans l'histoire. C'est terminé. Tout est accompli. Dieu m'accepte non pas à cause de ma performance, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ et de sa justice. Et pour Paul, la tragédie, c'est qu'il annonçait cet évangile d'une synagogue à l'autre. Il annonçait ce salut gratuit en Jésus-Christ, mais il obtenait chaque fois la même réponse. Non, nous allons établir notre propre justice par notre propre capacité à garder la loi. Ses compatriotes ne voyaient pas que la loi n'a jamais été donnée pour que l'homme obtienne des points auprès de Dieu grâce à son obéissance à la loi. La loi a été donnée pour nous condamner, pour fermer notre bouche devant Dieu et pour pointer nos regards vers notre besoin d'être sauvés de la colère de Dieu. Quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et quand on vient à Christ, quand Dieu nous appelle à venir à Christ, on réalise que c'est la fin de la loi pour la justification. Que c'est la fin de la loi en ce qui concerne notre acceptation devant Dieu. Mais combien de fois est-ce que nous retombons dans l'ancienne façon de penser? Combien de fois est-ce qu'on retombe dans ce qu'on appelle le légalisme? Il y a beaucoup de légalisme dans le monde chrétien, même dans la vie chrétienne. On permet, on établit nos propres habitudes de vie et on les laisse étouffer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce principe légaliste est dans le cœur de chacun parce que nous sommes légalistes par nature. Ce principe veut s'attarder dans notre cœur, même après notre conversion. Même quand on devient un chrétien, ce principe va s'attarder sous différentes formes et parfois très subtiles. Mais ce principe légaliste est toujours un ennemi de la grâce de Dieu. Et il va toujours produire une croissance restreinte dans la vie du croyant. On pourrait citer quelques exemples dans lesquels ce principe légaliste apparaît. Il apparaît dans nos relations personnelles. Quand on voit un autre croyant, quelles sont nos premières pensées, quelles sont nos premières paroles au sujet de ce croyant? Est-ce que ces paroles, est-ce que ces pensées sont négatives parce qu'il y a quelque chose dans leur vie que l'on n'aime pas? Au lieu d'être rempli de la grâce de Dieu et de penser à ce croyant comme quelqu'un pour qui Christ est mort, on va penser à cette personne comme si Christ n'était pas mort pour elle. Et donc on voit ce croyant en termes de performance. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'il marche bien? Au lieu de le voir dans les termes de la grâce que Dieu lui a manifesté en Jésus-Christ en le sauvant. Il apparaît par exemple dans une autre forme, quand on veut chercher à toujours corriger les autres. C'est une merveilleuse illustration de l'esprit légaliste. On ne peut pas laisser les autres. On ne peut même pas les laisser chuter. Même si nous, de notre côté, on se laisse aller au péché sans retenue. On veut sans cesse corriger les autres. C'était le problème des pharisiens. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Par contre, eux, ce principe va envahir ma relation avec Dieu. Je commence à penser à ma relation avec, que ma relation avec Dieu est basée sur ma performance. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment obéi? Et si je n'ai pas suffisamment obéi, à ce moment-là, j'ai l'impression que Dieu ne va pas m'accepter. Alors que mon acceptation devant Dieu, elle est en Christ. Elle est toujours en Christ. Elle est toujours basée sur la grâce et pas sur mes performances. Ce principe envahit l'Église et on le verra plus tard dans cette lettre aux Romains. Quand il y a des personnes qui ont des pratiques différentes et avant de les accepter, on veut les corriger, on veut les remettre droit avant de les accepter. On pourrait trouver d'autres formes sous lesquelles ce principe de légalisme apparaît dans nos relations. Mais le message de l'apôtre Paul, c'est que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Notre acceptation devant Dieu n'est pas selon nos œuvres, nos performances, l'obéissance à la loi. Elle est par grâce, en Christ et en Christ seul. C'est pour ça que même si nous passons par des moments difficiles, même si nous chutons, notre acceptation par Dieu est toujours garantie parce qu'elle est en Christ. Parce que nous sommes acceptés en Christ, par grâce et pas selon notre performance. Mais qu'en est-il de notre vie? Nous sommes acceptés par grâce, oui, mais est-ce que les gens autour de nous voient, est-ce qu'ils sentent que nous sommes de plus en plus remplis de grâce? Que nous manifestons de plus en plus de grâce dans notre vie, dans nos relations. Parfois, quand je suis au volant de mon bus, il y a une personne qui va monter et dès qu'elle ouvre la bouche, on sent qu'elle vient de fumer une cigarette. Elle ne peut pas faire disparaître cette odeur. Elle ne peut pas effacer cette odeur. Et c'est la même chose pour le croyant. Nous inspirons et nous expirons soit la loi, soit la grâce. On ne peut pas dissimuler ce qu'on respire. On ne peut pas effacer, on ne peut pas supprimer ce qu'on respire. Soit on inspire et on expire la loi, soit la grâce. Et ce que nous respirons va affecter nos relations, notre adoration, notre communion fraternelle. Nous voulons donc inspirer de grandes bouffées de grâce afin de les expirer et d'expirer cette grâce aux autres. Et cet esprit légaliste, nous devons le noyer. Ces esprits légalistes, nous devons les faire taire. En Christ, nous avons été acceptés par grâce. Et c'est pour ça que Paul est rempli de compassion pour ses compatriotes. Il veut les voir connaître cette même grâce de Dieu en Jésus-Christ. Notre acceptation devant Dieu est en Christ par grâce. Que Dieu nous aide à vivre cette grâce, qu'il nous aide à vivre dans cette grâce et qu'il nous aide à respirer, à manifester cette grâce dans nos relations avec les autres. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.